Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. La France bouge. Notre mission est toujours la même, mettre en avant cette France riche en talents et en initiatives. Cette année encore, on va vous raconter les plus belles sagas familiales et on va s'intéresser avec vous à notre nouvelle vie au travail et peut-être de plus en plus finalement au travail à la maison. Ce sera en fin d'émission. Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1 et nous sommes côte à côte cette saison pour présenter La France bouge.
Et moi aussi, je suis très heureux d'être à votre côté, Elisabeth, cette saison, alors que la France connaît la pire crise économique de son histoire. Ben nous, on va essayer de voir quand même le bon côté des choses. On va mettre en avant chaque jour ceux qui font bouger la France et ceux qui vont la faire redémarrer. Alors, peut-être comme vous, Elisabeth, comme moi, on est de retour aujourd'hui au travail en ce lundi. L'occasion de se poser une question. Comment s'est passé cet été? Est-ce que le secteur du tourisme a quand même un petit peu, grâce à nous, qui sommes peut-être restés en vacances en France, sauver son été? Eh bien, on va en parler dans un instant avec notre grand patron du jour, Yann Caillère. C'est le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Il est venu avec des chiffres exclusifs pour nous, justement, sur son été. Un été placé sous le signe de la Covid-19. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui. Ouais. Eh bien, l'entrepreneur en a profité pour lancer un site internet qui nous permet de sécuriser au maximum nos déplacements. Ça s'appelle evitecovid.fr. Vous l'avez testé pour nous, oui, Elisabeth, il sera avec nous dans un instant.
Chaque jour, une saga familiale à la une. Aujourd'hui, Serge Trigano, sa famille est à l'origine de la création du Club Med. Et c'est aujourd'hui surtout le cofondateur des hôtels Mama Shelter. Il se présente comme un marchand de bonheur du Club Med au boutique hôtel. On vous dit tout, rendez-vous à 13h30. Il sera en direct dans ce studio. Et bien sûr, La France bouge, ce sont des projets, des entrepreneurs qui se lancent. Ils ont 1 minute 30 pour vous convaincre et pour convaincre notre grand patron du jour. Ce sera à 13h40.
Je suis sûr que c'est la question que vous êtes tous le plus souvent posée cet été. Elisabeth, vous avez votre masque?
Oui, ben là j'en ai même deux avec moi.
Vous en avez deux, mais on a la chance de ne pas pouvoir les porter en studio parce que c'est quand même la règle aujourd'hui. Masque obligatoire au travail. Nous irons en Corrèze dans un centre d'appel qui organise justement cette rentrée masquée. Ce sera la toute fin de cette émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Bonjour Yann Caillère. Merci d'être notre tout premier invité pour cette France bouge nouvelle formule. Vous êtes donc le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Avant l'été, on nous annonçait une catastrophe. J'ai l'impression que vous êtes un bronzé et deux, vous avez le sourire. Ça s'est finalement pas trop mal passé.
Je dirais trois. J'avais dit que normalement, ça pourrait être pas si mal que ça.
Et c'est le cas.
Et en fait, oui, on est pratiquement aujourd'hui comme l'année dernière. Donc on n'a pas...
Comme l'année dernière.
Pratiquement. On est à peu de choses près, globalement comme l'année dernière, avec des différences selon les sites. Mais globalement, oui, les destinations favorites que sont le sud-est, le sud-ouest, etc., ont continué à très bien fonctionner. Par contre, on a deux gros gagnants, c'est la montagne et la Bretagne. Et par contre, on a deux zones de vigilance qui sont le Adagio, qui a un comportement plus...
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, c'est une chaîne de résidence hôtel.
Urbaine, c'est important. Parce que cette année, en fait, ce que l'on va découvrir, ce ne sont pas les grandes villes qui sont les gagnantes, ce sont les petites villes, en fait, et les destinations, les petits villages, etc. En fait, c'est ça.
Justement, on va prendre du temps pour entrer dans le détail de tous ces chiffres. Quand vous dites, on est quasiment comme l'année dernière, malgré tout, ce que vous n'avez pas fait pour les ponts du mois de mai, ce que vous n'avez pas fait aux vacances de Pâques, ça s'est perdu.
Ah oui,
mais juillet-août, on est à peu près comme l'été 2019.
Exactement.
Et ça, c'est une énorme surprise, malgré tout, pour vous?
On a tout fait pour, il faut dire. Mais globalement, on a tout fait pour. Mais en fait, ce qui s'était passé, ce qui était intéressant, c'est qu'au mois d'avril, j'avais beaucoup de mal à sentir en fait, ce que les gens avaient en tête. Donc, on a fait des sondages auprès de nos clients. Parce qu'on a un gros accès direct avec nos clients. 85% de nos clients sont directs chez nous. Et donc, leur demander dans quel état d'esprit ils étaient et comment ils envisageaient les vacances. Parce que c'était compliqué de savoir dans quel état d'esprit les gens étaient. Et en fait, ils disaient tous la même chose. Premièrement, on veut passer des vacances, ce qui était rassurant pour nous. Deuxièmement, on veut s'assurer que tout ce qui est Covid-19 est traité correctement. Troisièmement, on veut la flexibilité maximum en termes d'annulation. Parce qu'ils ne savaient pas s'il y allait avoir une vague 2 ou pas. Donc, ce que l'on a fait, c'est que, on a bien sûr... retravailler sur nos offres.
Nos offres, ça veut dire baisser les prix?
Non, on n'a pas touché les prix.
Il n'y a pas eu d'offres promotionnelles. Non. Pourtant, je suis allé regarder sur Center Park, il y avait énormément d'offres promotionnelles.
On a fait des offres promotionnelles, notamment pour juillet, parce qu'il a fallu lancer la machine. C'est vrai que les 15 premiers jours de juillet, on a eu du mal à démarrer, etc. Mais globalement, à partir de mi-juillet jusqu'au moment où je vous parle, là, on est parti. On a même des pays qui ont fait mieux que l'année dernière. Si vous prenez la Belgique et la Hollande, on a fait mieux que l'année dernière.
Alors, Yann Cailler, qu'est-ce que vous avez mis en place? Finalement, vous avez tout fait pour rassurer vos clients. Vous avez fait quoi?
On a mis en place tout ce qui était mesure sur le Covid. On a travaillé avec des sociétés pour Hygiène Care, par exemple, sur Hygiacare sur Pierre et Vacances. On a travaillé avec SGS sur Center Park en Allemagne et Kawa sur la Belgique et la Hollande.
Mais ça donne pourquoi ?
C'est-à-dire, ça veut dire que masque, visière, on a refait tous les processus prise de température, aussi bien d'ailleurs, tout ce qui est Covid, ça concerne aussi bien les clients que le personnel. Ça, il faut bien avoir ça en tête. Ce sont les deux doivent être traités de la même manière.
Mais quand on est en vacances, parfois on n'a pas toujours envie d'avoir ce masque. Ça peut être très énervant. On a entendu beaucoup de situations dans lesquelles il pouvait y avoir des relations conflictuelles. Oui. On a beaucoup parlé par exemple des transports en commun. Est-ce que c'est le cas également dans un centre de vacances? Est-ce que maintenant, le géo doit faire la police?
Oui, mais enfin, nous on a un gros avantage par rapport à notre offre. C'est que toute notre offre est basée sur soit des cottages ou des appartements, s'il s'agit de Pierre et Vacances, où vous pouvez faire la cuisine vous-même. Vous avez votre propre appartement avec votre cuisine, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les restaurants, etc. On a développé, par exemple, une offre de delivery dans les cottages de Center Park. Donc, les gens commandaient leur repas, etc. Donc, on n'a pas eu ce problème. On a eu le problème, par exemple, le gros problème qui s'est posé pour nous, c'était le Center Park avec l'Aquamundo, qui est le grand bassin, etc.
Comment on met tout le monde dans la piscine en même temps?
Exactement.
Là, il a fallu réglementer.
Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait, dans un premier temps, on a travaillé sur 10 mètres carrés par baigneur. La loi, aujourd'hui, nous oblige à 4 mètres carrés. Et en fait, nous, aujourd'hui, on traite sur 7 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a pris beaucoup plus de prudence par rapport à ça. En clair, on fait des contingents. C'est-à-dire qu'on compte les gens. Et puis, on a même fait sur des centres qui étaient très, très utilisés, on a fait des horaires. C'est-à-dire que vous pouviez venir, vous commenciez à 8h, à 10h, vous deviez partir, etc.
Ça ne casse pas un peu la spontanéité
des
vacances ?
Absolument pas. Absolument pas.
Bah, un petit peu quand même, Elisabeth a raison.
Je peux vous dire
si on a son créneau entre 12h et 13h30 la petite dernière qui fait la sieste.
Non. En fait, on n'a pas eu du tout de dissatisfaction par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce qu'on a renforcé aussi, c'est l'offre extérieure. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup plus d'offres à l'extérieur, sur le vélo. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé dans un Center Park, mais vous avez beaucoup d'activités au milieu de la nature. Donc, on a renforcé ce type d'activité, ce qui fait que les clients n'ont pas eu à faire la queue plus que d'habitude par rapport à leurs activités.
Quand vous dites on est au même niveau que l'année dernière, donc malgré tout, c'est très rassurant, puisqu'on entendait à l'instant dans le journal de Christophe Lamarre, le monde du tourisme au global, qui annonce des dizaines de milliers de suppressions de postes. Pour vous, vous allez tenir, d'après vous. C'est-à-dire que vous pouvez passer cette crise. Un groupe comme aujourd'hui, Pierre et Vacances Center Park.
Entendons-nous. Là, on parle de juillet, août, septembre.
Justement, c'est pour ça que je vous pose la question.
On ne va pas oublier avril, mai, juin, qui ont été pour nous une catastrophe. On est passé de 8 millions de clients à zéro client. Donc là, tout était fermé. Donc là, par contre, tout ce qui est perdu, dans l'activité de l'hôtellerie, il faut bien comprendre du tourisme, ce que vous avez perdu aujourd'hui, vous ne pouvez pas le vendre deux fois demain. Donc, ce qui est perdu, de toute façon. Donc, ce sera une année
mauvaise. Mais ma question, c'est, vous pouvez passer sans licencier tenant pour les mois d'avenir ?
Non. De toute façon, on avait lancé, j'avais présenté un plan de restructuration avant Covid. Donc, le plan a été déroulé et on est dans la phase maintenant finale, puisque le plan...
Il faudra l'accélérer un peu, du coup, à cause de ce qui s'est passé ?
Non, on ne peut pas l'accélérer, parce que vous avez des délais à suivre, de toute façon. Donc, on l'avait lancé au mois de juin. Et donc, on sera dans les temps. Et fin septembre, ce sera terminé.
Vous parlez justement de septembre. Beaucoup dans le secteur du tourisme disaient il faut qu'on sécurise juillet-août et surtout qu'on arrive à faire vivre notre saison un peu plus longtemps, à donner envie aux gens de venir en septembre, en octobre et jusqu'aux vacances de la Toussaint. Est-ce que là, vous commencez à avoir une petite visibilité ou vraiment, plus que jamais, les gens réservent à la toute dernière seconde?
Alors, le constat de la dernière minute, de toute façon, on l'a eu sur juillet et on l'a eu sur août aussi.
Ce qui est pour le mois d'août assez inédit.
Oui, exactement.
Donc là, vous avez des réservations pour septembre en cours ?
On a déjà des réservations pour septembre, mais on a bien vu sur juillet et août, on se fait peur toutes les semaines. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de demandes de dernier moment.
Et sans jamais offrir une troisième nuit pour le prix de deux.
On a fait des opérations à des moments donnés, mais globalement, le panier moyen par rapport à l'année dernière n'a pas bougé.
Et
sur la montagne, par exemple, il a même augmenté pour différentes raisons. Premièrement, les gens demandent plus de premium sur Pierre et Vacances parce qu'il s'agit de Pierre et Vacances en montagne. Vous avez plusieurs catégories. Le premium est le plus élevé. On a eu une très forte demande de premium, pas que sur la montagne d'ailleurs. En Normandie, pareil, on en a à Deauville notamment. La deuxième raison, ce sont des séjours plus longs. Conjonction du premium plus des séjours plus longs a fait que le panier a augmenté.
Et on est d'accord que ça, on est arrivé avec les Français. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de touristes étrangers ou quasiment
pas. Très peu. La clientèle, d'une manière générale, en été, on est sur un marché domestique. C'est ça notre force. Notre force, c'était plusieurs quoi. C'était un, on a des produits qui sont répartis dans toute la France. Mer, montagne, campagne, etc. Deuxièmement, vous êtes totalement autonome dans notre mode de fonctionnement puisque soit vous faites votre cuisine vous-même, etc. Donc, vous pouvez très bien vivre. Troisièmement, vous venez en voiture. Vous n'avez pas de problème de transport. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, vous mettez votre famille dans votre voiture et vous les emmenez directement sur la destination. Ce qui fait que globalement, on avait tous les éléments pour passer un été convenable. C'est ce qui s'est passé.
Vous parliez de la montagne et de la Bretagne, les deux stars de cet été.
Oui, par rapport à l'année dernière.
Quelle est la part de ces deux destinations là, dans votre bilan, dans votre chiffre
globalement,
d'affaires
pour vous donner un ordre d'idée, la montagne, c'est à peu près 10%. Et globalement, on est passé autour de 13%. Ce qui veut dire que c'est quand même une augmentation importante.
Et vous pensez que c'est une tendance qui va rester la tendance de demain, ou cet été est tellement atypique que l'année prochaine, tout le monde va vouloir partir en France, va vouloir partir à l'étranger?
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une tendance lourde qui s'est révélée et que l'on va voir à plusieurs moments. On ne l'a pas vu d'ailleurs uniquement dans le tourisme. On l'a vu dans le mode de consommation des gens. Beaucoup plus de recherche locale, beaucoup plus d'autonomie, etc. Donc je pense que la tendance fait que les gens ont redécouvert la France. Et il y a quand même aussi, et d'ailleurs ça va rejoindre le débat tout à l'heure, mais l'empreinte carbone, ça prend de plus en plus d'importance. Il y a des éléments qui commencent à rentrer dans le day-to-day que l'on n'avait pas avant.
On devrait vous embaucher à la radio, puisqu'on avait justement prévu à ce moment-là de faire la transition et de passer à notre invité d'après. Vous faites notre travail. Yann Kayer, directeur général du groupe. Mais non, pas justement, pas désolé, vous êtes meilleur que nous. Directeur général du groupe Pierre et Vacances, vous êtes avec nous et on a encore pas mal de questions à vous poser.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on va continuer à parler de nos vacances de cet été si spécial, hein, si particulier sur fond de coronavirus. Et pour nous rassurer, un entrepreneur a lancé un site internet qui sécurise les trajets et les hôtels. Ça s'appelle evitecovid.fr. Bonjour Laurent Larocca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez mis en place ce site internet pour sécuriser un maximum nos déplacements, ce qui est quand même très très utile là en ce moment. Alors à l'origine, c'est pas votre cœur d'activité. Hein. À l'origine, vous êtes spécialisé dans le voyage d'affaires.
Absolument. J'ai cofondé The Trip, qui est notre start-up qu'on a cofondé en 2016. Pour réduire le stress et l'empreinte carbone des voyageurs d'affaires. Donc nous, on est dans le tourisme, mais le tourisme plutôt d'affaires, professionnel. Donc les entreprises nous utilisent pour réserver leur avion, leur train, leur hôtel, leur location de voiture pour une destination professionnelle. Et on va essayer de le faire avec l'empreinte carbone la plus petite possible.
Donc vous accompagnez les professionnels, les entreprises, sauf que le coronavirus a fait irruption dans votre vie. Et là, vous vous êtes dit, je vais lancer une idée pour faciliter les déplacements, non pas que professionnels, mais pour tout le monde avec EvitCovid.
Alors de mi-mars à mi-mai, on s'est senti très inutile, hein, puisque plus personne ne voyageait, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Et on a une grande équipe d'ingénieurs et on a beaucoup réfléchi à comment être utile, comment se mobiliser aussi pour la France, pour l'aider à repartir. Au moment où on allait être déconfiné, on s'est rendu compte qu'il y avait une inquiétude très forte des voyageurs sur est-ce que je vais attraper la Covid-19 en prenant le métro, en prenant un train, un avion, etc. etc. Ou est-ce que je serai plus en sécurité dans ma voiture avec des gens connus. Et donc on a créé un algorithme qui calcule la probabilité de contamination à la Covid-19 en prenant un transport en fonction, de la circulation des virus sur l'origine, la destination ou les différentes étapes. Donc ça, c'est des données que le gouvernement met à disposition en open data. Nous croisons aussi d'autres données comme la densité de population et les précautions prises par les professionnels, que ce soit les opérateurs de transport ou les opérateurs hôteliers, pour mixer tout ça et donner une probabilité, un risque.
Alors attention, parce que Elisabeth a testé. Ouais. A testé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Elisabeth?
J'ai trouvé que c'était d'abord un site internet de bon sens. Hein. Moi, j'ai rentré en train Nice-Paris. Donc là, quand j'ai cliqué ça sur votre, j'ai rentré ça sur votre site internet. Vous m'avez dit, c'est un long trajet. Oui, ça fait plus de 6 heures de trajet. Si vous ne portez pas de masque, vous n'avez pas de gel, là, il y a un problème. En revanche, vous émettez des recommandations de bon sens en disant qu'il faut porter un masque, qu'il faut avoir du gel, il faut se laver les mains régulièrement. J'ai testé également pour les hébergements et il y avait certains hébergements qui n'étaient pas dans la base de données. Alors comment vous faites pour pouvoir agréger tout ça et avoir une espèce de mise à jour en temps réel?
Alors là, on travaille avec des partenaires. On ne peut pas faire ça tout seul.
Oui, bien sûr.
Le digital, c'est aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de data, beaucoup de données que l'on doit récupérer. Là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle CDS, qui va récupérer toutes les données hôtelières, qui travaille absolument tous les groupes hôteliers en France et qui a posé la question aux hôteliers pour leur demander quelles précautions sanitaires avez-vous mis en place, comme dans le groupe Pierre et Vacances. Les différents groupes ont mis en place certaines précautions, pas de manière équivalente et uniforme. C'est bien ça le problème, c'est de décrypter qui a fait quoi pour le personnel ou pour les clients. Et à ce moment-là, on récupère ces données lorsqu'elles sont disponibles. Lorsqu'elles ne le sont pas, malheureusement, on ne peut pas les donner.
C'est ça la grande difficulté. C'est finalement comme l'application Stop Covid. La difficulté, c'est que les gens la téléchargent et que les gens l'utilisent. Vous allez vous y mettre, vous, Pierre et Vacances, à cette application?
Écoutez, on peut regarder. Nous, de toute façon, ce qui est important pour traquer, c'est de voir les sociétés qui ont pris des labels. Et en fait, c'est ça, il y a des groupes.
Mais il y en a beaucoup aussi de labels. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est sûr. Mais en général, les labels, quand même, c'est quand même une garantie parce qu'ils ne les donnent pas comme ça.
On va parler de l'avenir avec vous, Yann Caillère, patron de Pierre et Vacances Center Park. Vous avez dû annuler cet été votre projet de Center Park à Roibon, en Isère, devant la fronde notamment des écologistes. Ça veut dire que c'est fini? Vous ne pourrez plus jamais construire un seul Center Park en France?
Ah ben non, puisqu'on en a un Lot-et-Garonne.
Je sais.
Donc non, absolument pas. Donc on a un très beau projet en Lot-et-Garonne. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on soit encore plus vigilant, encore plus prudent, et puis encore plus, comment qualifier ça, en étant beaucoup plus impliqué avec les locaux. Parce que Lot-et-Garonne,
Vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, cette erreur ou ce problème vous permet d'accélérer sur la transition écologique, par exemple, de vos futurs sites.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan de restructuration, j'ai souhaité mettre en place une raison d'être au niveau du groupe pour qu'on soit clairement, que nos équipes sachent exactement c'est quoi notre mission au niveau du groupe. Et bien sûr, il y a un aspect important au niveau du développement durable. Et ça en fait partie. Donc aujourd'hui, on doit tenir compte de ça.
Et plus globalement, est-ce que cette crise vous oblige à repenser votre façon de vous développer? De vous dire que, par exemple, peut-être les gens vont vouloir plus rester en France dans des résidences comme les vôtres. Oui. Et peut-être que vous n'aviez pas imaginé de développer plus que ça des Center Parks chez nous et vous allez en faire plus que prévu.
Les Center Parks, alors ce qu'il faut se dire, c'est que Center Park, globalement, c'est quand même un produit qui est quand même très Europe du Nord. Parce que
au sud, a priori, on n'a pas besoin d'être sous une bulle pour avoir du soleil.
Voilà. Donc, il y a quand même une limite. Mais c'est vrai qu'on a, par exemple, c'est un moyen également, si vous prenez le cas de l'Allemagne, on a des anciennes bases militaires allemandes que l'on convertit en Center Park et avec les Länders allemands. On convertit un produit qui n'a pas une vocation particulièrement agréable, en quelque chose de plutôt sympa.
Eh bien, vous restez avec nous parce que vous êtes notre invité, Yann Caillère, patron du groupe Pierre et Vacances Center Park. Jusqu'à 14h, on va laisser repartir Laurent Larocca, qui a donc créé le site evitecovid.fr. Un grand merci à vous deux. Et vous restez tous avec nous jusqu'à 14h. Il est 13h28.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est ensemble jusqu'à 14h dans La France Bouge. Chaque jour, on va mettre en avant dans cette émission toutes ces entreprises qui nous aident à redémarrer et bien évidemment à faire bouger la France. On est depuis le début de cette émission avec Yann Caillère, le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Et On fait maintenant entrer en studio un autre très grand nom du monde du tourisme, parce qu'on s'intéresse justement à ce bilan de l'été du côté du tourisme.
C'est plutôt positif, hein, qu'on a, depuis le début, là,
très rassurant pour le moment.
C'est très rassurant.
Et on est avec Serge Trigano, président et cofondateur de Mama Shelter. Bonjour.
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 Merci vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît maintenant sous le nom de Mama Shelter, mais votre famille, votre père notamment, a créé le Club Med, hein, histoire dans le tourisme que bien évidemment tout le monde connaît, qui s'était mal terminé pour la famille, puisque vous le premier en 97, on vous avait dit au revoir, hein, ça ne marchait plus à l'époque. Mais malgré tout, pendant une trentaine d'années, vous avez vécu Club Med. Est-ce que c'est parce que vous avez échoué au Club Med que vous en avez tiré les leçons et que vous vous êtes dit, je vais leur montrer que bah, j'ai une bonne idée, que je suis un spécialiste du tourisme et je vais inventer l'hôtel de demain?
Oh, je sais pas, moi, la revanche, c'est pas dans mon truc, mais bon, c'est vrai que ça a été un peu violent, oui. La façon dont on... dans le monde
évincé.
Aujourd'hui, c'est ceux qui contrôlent le capital qui décident de ce qu'ils font. Bon, et les fondateurs, ils en ont rien à cirer. Mmh. Donc, 30 ans du club, au revoir, circuler, rien à voir. Peut-être que ça n'a pas été très élégant dans la façon dont ça a été fait. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et moi, quand j'ai quitté le club, j'avais 50 ans. J'avais à la fois ni les moyens ni l'envie de partir à la retraite et de finir ma vie sur les terrains de golf ou de consultant. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait essayer de réimaginer quelque chose. J'ai la chance d'avoir une famille formidable, une maman extraordinaire, une femme qui était avec moi, des sœurs qui m'ont accompagné, mes fils avec lesquels on a réfléchi.
Parce que votre famille, c'est une saga, elle, toute seule.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est une saga. Et on s'est dit, bon, bah, y a peut-être autre chose à imaginer. Le tourisme, ça peut être autre chose que les villages de vacances tels qu'on les a conçus avec le club. Mmh. On a pensé à cette hôtellerie de ville qui est devenue le Mama Shelter.
Et sur quelque chose qui est très tendance aujourd'hui, sur une sorte de personnalisation. C'est-à-dire, aucune chambre ne se ressemble. On n'est pas vraiment dans l'idée d'un hôtel. C'est-à-dire, les parties communes sont hyper agréables. On pourrait juste avoir envie de venir boire un verre dans vos hôtels. On est dans un lieu de vie, finalement. Vous avez repensé la façon où l'hôtellerie se vit aujourd'hui.
On a un peu cassé les codes de l'hôtellerie classique, tout en ayant comme partenaire le groupe Accor, qui est l'actionnaire de Mama et qui nous permet d'accélérer le développement. Mais effectivement, enfin moi, ce que je dis parfois, c'est que le Mama Shelter, c'est des bars avec des chambres au-dessus. C'est-à-dire un lieu de vie, un lieu de rencontre.
C'est parfois des restaurants tout au-dessus.
Restaurants au-dessus quand on arrive.
Des salles de concert aussi.
Et des salles de concert et des salles de séminaire. Voilà. Et c'est un petit peu ça qui a fait le succès du Mama, c'est que partout, en fait, c'est les populations locales qui s'approprient le Mama. Les hôtels, jusqu'à il y a peu de temps, étaient des endroits un peu fermés. On sortait sur l'extérieur. Les gens de la ville ne venaient pas déjeuner, dîner dans un nouveau hôtel.
Ils n'avaient même pas l'idée.
Pas l'idée, voilà. Et nous, on a un peu cassé les codes. On a eu la chance de travailler avec Philippe Starr, qui est un type assez extraordinaire. Et on s'est dit, faisons rentrer l'énergie de la ville dans le Mama.
Il y a Alain Sandoras aussi.
Il y a Alain Sandoras qui a joué un rôle formidable.
Qui a mis des menus à 22 euros
absolument,
au lieu de 300 dans ses restaurants.
Qui est un des premiers chefs à avoir rendu ses 3 étoiles pour dire j'ai envie de faire autre chose et qui a accepté le pari du Mama, ce qui n'était pas évident parce qu'il y a 15-20 ans, quand on a monté l'histoire du Mama, on s'est fait jeter de partout, à la fois des financiers, des maires de la ville.
Personne ne voulait de vous.
Ah non, personne.
Ouais. Charles Millot.
Ouais, ancien patron de la Caisse d'épargne.
Carton de la Caisse d'épargne.
Comment vous l'avez convaincu? Qu'est-ce qui a fait que lui, il a dit je mets dedans?
Moi, j'avais la chance à l'époque, comme il fallait quand même un petit peu travailler, je gérais un centre de formation du groupe Caisse d'épargne à Béousse, dans les Yvelines. Donc ça m'a permis de le rencontrer. Et puis on a pas sympathisé, mais il y a un gars qui était proche de chez nous, qu'il connaissait bien, qui travaillait chez lui, qui est Laurent Chauhin. C'est un peu comme ça que l'histoire s'est bâtie. Je crois que Laurent vient de temps
que
en temps.
Que nous connaissons bien à la France Bouge.
Et c'est Laurent qui a joué un peu le go-between entre la Caisse d'épargne et le Mama. Et effectivement, c'est la Caisse qui a pratiquement la seule qui a accepté de nous financer.
On l'entendait dans cet été si particulier, ce qui pose vraiment un problème, c'est l'absence de tourisme dans les villes. Vous le disiez, on a fait le pari d'un hôtel urbain. Ils sont vides en ce moment?
Alors écoutez, nous, on n'est pas aussi chanceux que le monsieur d'à côté qui fait un très bon
c'est
été.
C'est pour ça que c'était le premier invité.
Nous, on souffre un peu plus quand même, il faut dire des choses. Paris est vide, on a 2 mamas à Paris, bon, ils sont vides, enfin à 20-30% d'occupation. En province, ça fonctionne plutôt bien, les Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, ça fonctionne plutôt bien. Los Angeles, le rooftop marche, mais l'hôtel est vide. Voilà, on a la chance d'avoir la partie de restauration qui amortit un peu le choc et qui fait qu'on va s'en tirer à peu près correctement.
Comment vous définissez les endroits où vous avez envie de vous installer? Parce que là, vous avez cité des villes qu'on connaît tous, mais vous êtes à Belgrade aussi, par exemple. Comment on décide un jour de se mettre là-bas?
Écoutez, nous, on est opportunistes. On n'a pas fait un grand plan de développement. On dit qu'on se pose un peu sur les villes qu'on aime. Un jour, on a été contacté par des financiers israéliens qui faisaient un mall à Belgrade et qui avaient prévu de faire un hôtel sur le toit de leur mall et qui cherchaient un opérateur et qui nous a convoqué un 15 août. Moi, j'ai dit 15 août, elle est à Tel Aviv, pourquoi ?
Bon. Il y a pire.
Il y a pire, mais bon, on est allé et on est tombé sur une famille assez marrant. C'est un peu les Bouygues israéliens. Ils ont dit, voilà, on fait cet hôtel. Est-ce que vous voulez le gérer ? Et la ville est formidable, il y a une énergie incroyable et c'est devenu le lieu des Serbes qui viennent prendre un verre.
Et où est-ce que vous ouvrez alors demain ? Vous êtes venu quand même avec quelques révélations pour nos auditeurs de la France Bouche sur Europe 1.
Écoutez, on vient d'ouvrir le Luxembourg. Et puis... un peu sur les conseils de Stéphane Bern.
Qu'on va retrouver cet après-midi sur toutes nos auditeurs ne ratent pas. Donc 16h, 18h avec Mathieu Noël.
Pour notre copain Stéphane, qui nous a un petit peu poussé avec le Premier ministre à nous installer au Luxembourg. On va ouvrir à Rome, on va ouvrir à Bahreïn, on va ouvrir à Dubaï, on va ouvrir un troisième à Paris, à La Défense, à Bucarest. Voilà, il y a pas mal de... Il y a une dizaine
d'ouvertures. Et le Covid ne change pas vos plans ? C'est-à-dire que vous le disiez, hein, vous n'avez pas la chance de sauver votre saison, comme peut le faire Pierre et Vacances. Est-ce que malgré tout, une crise aussi historique, parce que vous avez aussi une grosse clientèle d'affaires dans vos hôtels, ils ne voyagent pas en ce moment, ne sont peut-être pas prêts de revoyager. Comment on arrive à avoir toujours le même plan de développement quand on se dit que potentiellement tout son business est par terre ?
Écoutez, ça va être un enjeu. Moi, je crois qu'il y a une crise. Je crois qu'effectivement, on va souffrir encore pendant un an, peut-être un an et demi, jusqu'à ce qu'ils trouvent
jusqu'au
remède, hein, c'est clair. Une fois que ce remède va être trouvé, on aura à nouveau envie de voyager. Moi, je ne suis pas ceux qui prévoient un cataclysme dans nos métiers. Il faudra simplement, comment dire, à la fois dans les entreprises qui télétravaillent, je crois qu'il y aura besoin de temps en temps de se retrouver autour d'une table, autour d'un verre pour parler.
Vous allez devenir des endroits de coworking.
Voilà, on va devenir. D'abord, on a développé du coworking, on a du Mama Works. Et puis voilà, les gens vont revoyager. Il faut juste espérer que dans les conditions de voyage, elles s'améliorent un peu. Les aéroports sont devenus effrayants. Voilà, alors, il y a un petit sujet.
Un bon concept, on l'a bien compris. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'être en famille, hein? Puisque dès le début là, de notre entretien, vous parliez de votre maman, de vos enfants, hein, Jérémy et Benjamin, de votre sœur. Qu'est-ce que ça apporte de plus d'être en famille quand on est entrepreneur ?
Écoutez, je crois que ça crée une relation de confiance. D'abord, dans nos métiers de l'hôtellerie, c'est souvent des grandes familles, des grands succès hôteliers. Les Marriott, c'est une famille. Les Forte, c'est une famille.
Les Brémont, du côté de Pierre et Vacances, ça ne t'en parle, c'est une famille
Gérard
aussi.
Brémont, c'est une famille. Voilà, comme c'est des métiers, on ne peut pas dire qu'on commence à 9h le matin et qu'on finit à 5h le soir et que les week-ends, on les passe tranquillement. Il se passe tout le temps des choses, donc il faut que la famille accepte. Et donc, c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles cette disponibilité fonctionne, la confiance. Et puis moi, j'ai toujours travaillé avec mon père et je suis très heureux de travailler avec mes fils.
Alors des fois, il paraît que c'est pas facile de travailler avec Gérard Brémont, le patron de Pierre et Vacances. Mais Yann Caillère, vous en pensez quoi, vous, d'un concept comme Mama Shelter ?
Ah, moi, je trouve ça formidable. Parce que ça
vous avez dit mince, on aurait dû y penser ?
Oui, non, mais ça répond exactement au comportement du client d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez l'hôtellerie, de manière générale, l'hôtellerie affaires a essayé à chaque fois d'amener des petites touches de loisirs dans l'expérience affaires. Donc, ça a commencé avec une piscine, un fitness, des choses comme ça. Et en fait, le comportement du client a changé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un hôtel de loisirs qui cherche, dans lequel je peux faire des affaires. Mmh. Et c'est ce que fait Mama Shelter. Et donc, vous pouvez très bien travailler tout en étant dans une ambiance beaucoup plus relaxe, parce que les gens ont changé. Les gens, ils arrivent, il est PDG, il arrive en jean, etc. C'est pas comme avant, costume trois pièces et compagnie. Donc ça correspond à ça.
Eh bien, merci beaucoup Yann Caillère. Vous restez avec nous, hein. Vous êtes notre invité jusqu'à 14h. On va vous remercier Serge Trigano
merci
d'être passé
merci
par
Serge
notre
Trigano.
Studio de La France Bouge. Vous restez avec nous, il est 13h40. Europe
1. Allez, tout de suite, les trophées La France Bouge. Un projet, un pitch. C'est un moment que vous attendez. 1 minute 30 pour convaincre notre grand patron du jour dans La France Bouge. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge. Dans chaque crise, il y a des opportunités, hein, Emmanuel. Hein, on va le voir, on le voit chaque
Généralement,
jour.
Généralement, de là naissent de bonnes idées. On va voir si cette crise est encore révélatrice.
Très souvent des bonnes idées et les projets se bousculent et on ose, même en ce moment, en pleine crise sanitaire et économique, on ose se lancer comme vous. Bonjour Virginie Alezra.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, vous êtes la fondatrice de Geste, Geste avec un J.
Exactement.
C'est tout frais. Parce que ça existe depuis le mois de juillet. C'est une marque de cosmétiques propres, des cosmétiques clean, comme on dit, fabriquée en France, avec comme premier produit un dentifrice solide que nous pouvons voir. Si vous êtes en direct là, on est en direct sur europe1.fr, vous pouvez admirer ces petits dentifrices solides. Alors vous allez nous dire comment ça marche, vous allez nous donner, vous nous expliquer votre modèle économique. Je vous présente avant Yann Caillère, qui est le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. C'est notre notre patron du jour. Il est là. Là, vous allez un peu, Yann, un peu prendre la casquette de l'entrepreneur et donner votre avis après le pitch de Virginie Alezra. Virginie, il va vous écouter. On va vous challenger.
1 minute 30 pour
Mais avant, on vous laisse tout nous raconter. C'est parti. Vous avez 1 minute 30.
Merci, Elisabeth. Donc GES, c'est la volonté de transformer nos habitudes avec des cosmétiques du quotidien qui sont plus responsables, plus efficaces et toujours avec des textures qui sont agréables à utiliser. Le constat de départ est très simple, les produits que nous utilisons régulièrement sont aussi ceux qui polluent le plus. L'exemple parfait est celui du dentifrice, qui est le premier produit utilisé dans une salle de bain et qui est paradoxalement le moins recyclable. Et malheureusement, c'est un exemple parmi d'autres dans le secteur cosmétique et dans le contexte environnemental actuel. Nous n'avons plus vraiment le choix, il faut revoir nos habitudes. Et c'est pour ça que j'ai créé GES. GES, c'est vraiment l'ambition d'accompagner cette transition vers les gestes du quotidien de demain avec des produits de tous les jours qui sont à la fois clean, efficaces et durables. Clean parce que nous n'utilisons que des ingrédients sûrs et que nos formules sont d'origine naturelle. Efficace parce que je me suis entourée dès le départ de pharmaciens et de professionnels pour apporter une expertise exclusive à l'ensemble de tous les produits développés. Et enfin durable pour l'environnement, avec des emballages recyclables et des produits fabriqués en France. Et aussi durable pour nous, car nous travaillons nos textures pour qu'elles soient sensorielles et aident à transformer de manière pérenne nos habitudes sans aucun compromis. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes en phase de lancement avec nos premiers produits. Des dentifrices solides d'origine naturelle qui sont formulés sans eau et enrichis aux probiotiques pour renforcer encore leur efficacité. Donc comment les trouver, c'est simple, c'est sur le site internet geste.co, geste.co.
Vous êtes rentré hein, dans les 1 minute 30. Parfait. Merci.
Bravo, déjà pour le timing.
Elle a répété.
Un petit peu.
Oui, mais il faut en toute façon. Hein.
Exactement.
Merci Virginie Alezra. Donc ça s'appelle GES. On a bien compris. Hein. Donc c'est des cosmétiques clean, durables, avec le premier produit qui est un dentifrice. Tiens, allez, je me tourne tout de suite vers Yann Caillère. Votre première réaction.
Non, moi je pense. De toute façon, moi je suis toujours supportif par rapport à des jeunes qui veulent se lancer. Je pense que ça c'est déjà une très belle démarche. Le point c'est que on a parlé tout à l'heure. Je pense que ça ne suffira pas un dentifrice. Il faut vite arriver sur une offre un peu plus globale.
Plus large.
Plus large, absolument. C'est-à-dire que là, il faut trouver vite un savon, un shampoing, etc. pour avoir une offre beaucoup plus complète, etc. pour pouvoir...
Mais est-ce que ça vous interroge dans ce que vous pourriez distribuer comme produit dans les center parks ou dans vos centres Pierre
Alors,
et
nous,
Vacances
nous, c'est assez simple.
Il faut aller vers ce genre de produits.
La question qui va. Nous on offre pratiquement rien comme produit.
Ah bah bravo.
Puisque non. Et non parce que en fait, on s'aperçoit
c'est
de
C'est vrai qu'il y a rien.
Quoi.
Hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai.
C'est vrai que les pourquoi parce que nous on est dans une forme d'appartement et les gens, vous apercevez notamment les femmes ont chacune leur savon, leur shampoing, etc. Donc vous pouvez mettre les plus beaux produits. De toute façon,
on aime bien tester, enfin pas que les femmes hein, d'ailleurs, n'est-ce pas Emmanuel hein. On aime
bien tester. Aussi,
Mais en général, elles ont leurs propres produits. Donc nous, on n'offre pas ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être fait. C'est-à-dire le mettre en test, etc. Oui.
Pourquoi pas, ça pourrait aider. Virginie, vous recherchez quoi aujourd'hui avec ce dentifrice ?
L'exposition, j'imagine.
Oui, exactement.
Une visibilité,
et surtout,
oui, mais quoi d'autre ?
Une visibilité, mais aussi à améliorer les solutions qui sont déjà en place. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, le dentifrice, c'est un des produits les moins recyclables du marché. Et donc, avec cette solution, c'est de pouvoir apporter quelque chose qui est recyclable. Là, effectivement, comme vous l'avez dit, on va élargir également notre offre.
À quel horizon ? Qu'est-ce qui arrive là dans votre stock ?
Là, très prochainement, donc on va pouvoir avoir les recharges qui sont travaillées avec un laboratoire pour pouvoir venir recharger ces emballages. Et également d'autres produits qui sont en cours de développement pour la fin d'année.
Question technique, je mets la brosse à dents dedans et je gratte. Enfin, excusez-moi, hein, mais
parce que moi, je trouve qu'effectivement, en regardant votre produit et quand on l'a travaillé un peu avec Elisabeth, la grande difficulté, c'est d'apprendre aux gens à utiliser du dentifrice solide. Parce qu'on voit que, par exemple, sur les marques de shampoing solide, elles ont un gros problème de développement parce que déjà, ça ne se garde pas très bien une fois qu'on l'a utilisé les premières fois. Et là, comment du coup, on brise cette barrière de se dire, tiens, comment je l'utilise ?
Effectivement, on a un gros enjeu d'éducation sur ces produits qui ne sont pas encore très connus. Donc c'est aussi pour ça qu'on communique énormément. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit d'humidifier sa brosse à dents, de la frotter contre le produit jusqu'à ce qu'il mousse ou jusqu'à ce qu'on ait la texture désirée.
Oui, parce
et ensuite de
ça,
se brosser les dents.
Ça ressemble à une, pour nos auditeurs, ça ressemble à une espèce de pâte durcie, hein, de crème, de
oui,
crème
comme un galet.
Peu, comme un galet. Exactement. Vous avez besoin de financement aussi?
Oui.
Vous
alors
en
là,
êtes où? Vous êtes en fonds propres? Vous avez mené une campagne?
Pour l'instant, effectivement, c'est du fonds propre. Et là, on est en train de travailler avec des acteurs privés, effectivement, pour avoir des fonds pour poursuivre le développement de la marque.
Yann Caillère, convaincu?
Oui, moi je pense que oui, mais il y a une grosse tendance. Là, on en parlait tout à l'heure au niveau du comportement du client, quelque chose de plus authentique, de plus local, etc. Et là, ça correspond à ça, beaucoup plus tourné sur le développement durable. Oui.
Mais justement, quand vous dites tendance, moi je trouve que c'est peut-être ça dans votre secteur qui est le plus compliqué, c'est émerger. Parce que quand on est une toute petite marque, c'est réussir à se faire une place sur un marché dans lequel on est plein au même moment à avoir la même idée. Et parfois, certains très gros acteurs. Si vous deviez trouver une explication pour vous différencier et pour réussir à convaincre quelqu'un de dire que c'est celui-ci et pas un autre qu'il faudrait utiliser, vous diriez quoi ?
Oui, effectivement, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Après, on est les pionniers sur ce type de produit parce que d'un point de vue industriel, c'est encore assez récent. Et c'est un marché qui est petit, qui est jeune. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais c'est un marché qui est en forte croissance. Et on a tout à fait notre place. Et effectivement, notre avantage aussi, c'est donc d'être les premiers et d'être une jeune marque indépendante, plus proche de ses clients.
Vous avez une communauté déjà ? Vous êtes présent sur les réseaux ?
Oui, nous sommes présents sur Instagram et sur LinkedIn, mais voilà, cette communauté est en construction. Et c'est pour ça aussi... On vous remercie énormément de nous inviter dans cette émission pour la faire grandir.
On fait ça chaque jour sur Europe 1.
Exactement, dans la France bouge de 13h à 14h. Ça s'appelle Geste avec un J, un dentifrice solide, respectueux de notre environnement. Et ce n'est qu'un début, hein, parce qu'il va y avoir d'autres produits. Alors donnez-nous de vos nouvelles, hein, Virginie Alezra. Parce qu'on se fera un plaisir de raconter la suite à nos auditeurs.
Avec plaisir,
merci. Et si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison, si vous êtes justement au bureau en train de créer une start-up ou d'avoir la bonne idée de vous dire qu'il faut que vous veniez la vendre sur Europe 1, eh bien, vous venez faire ça chaque jour sur Europe 1 devant un grand patron. C'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail. Alors, on n'a pas trouvé plus compliqué, je vous rassure. e1-lafrancebouge@europe1.fr. Si on peut peut-être trouver un truc à améliorer cette année, Elisabeth, c'est peut-être au moins cette adresse mail.
On va essayer
de faire quelque
Sinon,
chose de
vous
plus
avez,
simple.
Vous avez Twitter, vous avez les comptes LinkedIn, etc. Merci, hein, merci à vous Virginie Alezra. Emmanuel, direction la Corrèze maintenant ?
Oui, puisqu'on va aller dans un centre d'appel, La France Bouge, hein, c'est la dernière partie avec Ma vie au travail, puisque chaque jour, on va vous accompagner dans les mutations du travail. Parce que peut-être ce qui a le plus changé, hein, Elisabeth, avec cette crise, c'est comment tout ce que l'on en est, on va travailler, nous ici dans les médias, mais j'en suis sûr, hein, vous à la maison, dans votre voiture, vous chez Pierre et Vacances, tout est en train d'évoluer et à un rythme très rapide. Et justement, ce qui évolue le plus aujourd'hui, hein, c'est comment on arrive à travailler toute une journée en portant un masque.
La France masquée en entreprise, l'obligation va entrer en vigueur le 1er septembre, mais dans certaines entreprises, le port du masque en permanence, c'est déjà une habitude, y compris dans les open space, quand on est assis à son bureau. Je vous propose d'écouter une illustration dans une start-up de location de bateaux. Elle est basée à Boulogne-Billancourt. Écoutez ce reportage d'Aurélien Fleureau.
Les salariés étaient même plutôt pour et proactifs en fait dans le port du masque. Tout le monde le met au bureau, donc c'est plutôt bon signe.
Avec une petite centaine de salariés répartis dans plusieurs open space sur deux étages d'une péniche, Tiffaine Lévy, la responsable RH de Click & Boat, avait fait passer la consigne. Le port du masque est fortement recommandé. Pas d'obligation, mais tout le monde s'y est mis, à l'image de Lydia.
Dans le métro, on le met, on en sort, on l'enlève pour prendre un peu l'air. Et puis naturellement, dans les bureaux, c'est un endroit clos. Donc on va le garder, on est assis peut-être à un peu moins d'un mètre, même si on n'est pas collés les uns aux autres. Mais ça devient des gestes finalement qui deviennent naturels.
Naturels, mais forcément aussi un peu contraignants.
On est très heureux de l'enlever quand on rentre chez soi, de se nettoyer le visage aussi. Voilà, il y a des inconvénients aussi à porter le masque tous les jours, hein, faut pas se mentir.
Et l'apparition d'une nouvelle routine au travail, celle de la petite pause sans masque, comme l'explique Bastien.
Si on a vraiment besoin de souffler, on se met dans un espace loin des autres, on souffle, on le remet et puis voilà.
Depuis l'annonce de l'obligation du port du masque en open space, Bastien a reçu quelques coups de fil d'amis inquiets. Ces quelques semaines de retour d'expérience ont permis de les rassurer.
Reportage donc d'Aurélien Fleureau dans cette start-up de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Maintenant, on part du côté justement de la Corrèze, retrouver Irmine Longy. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous également dans La France Bouge à 13h52. Vous êtes la directrice de TEIS. TEIS, c'est un centre d'appel, 320 collaborateurs. Alors vous aussi, on est tous masqués. C'est pas simple d'être téléopérateur et d'avoir un masque. Comment vous vous organisez ?
Bah écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on n'a pas été confinés. En fait, on a toujours travaillé. Donc, bah, l'idée, c'était quand même de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Et donc, pour ce fait, nous n'avons pas du tout attendu les mesures gouvernementales et on a mis plein de choses en place dès le début.
Alors, vous avez mis quoi ?
Un temps de circulation, du gel hydroalcoolique, des choses pour désinfecter les bureaux à dispo partout. On a mis de la distanciation sociale et effectivement, dès qu'on a pu, on a commandé des masques. Et depuis le 11 mai, en fait, on vit masqué, on vit donc au poste de travail avec son masque sur le nez tout le temps.
C'est pour ça qu'on a eu envie de vous appeler dans La France Bouge, c'est parce que vous avez un véritable retour d'expérience. Quelques semaines, quelques mois après, qu'est-ce que vous en retirez dans la façon de travailler ? C'est compliqué, j'imagine. On se plaint quand on a des lunettes, on a de la buée, etc., etc.
Alors, oui, mais je pense que finalement, après une période où de stress quelque part sur les salariés où pendant 2 mois on a travaillé malgré tout ce qu'on pouvait entendre, finalement, le masque nous a permis d'être ensemble et de travailler en tous les cas en ayant la sensation d'être en sécurité. Nous, en fait, on a mis 2 moyens. On a limité le nombre de personnes parce qu'on a mis aussi beaucoup de télétravail en place. On a aujourd'hui 130 conseillers qui sont en télétravail. Et on a aussi sur le site, du coup, mis les gestes barrières en place, en fait, avec une lecture cumulative des choses, c'est-à-dire à la fois le masque et à la fois la distanciation dès qu'on peut.
Alors, en entreprise, il y a aussi le problème du prix, hein, du budget des masques. Est-ce que c'est vous qui fournissez les masques à vos salariés ?
Alors, pour moi, oui, tout à fait.
Comment ça s'organise ?
On fournit les masques, mais le sujet n'est pas sur l'économique. Le sujet est sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Et oui, bah, le gel hydroalcoolique et le masque ont des coûts, mais pour autant, bah, ça permet aussi de continuer l'activité, c'est ce qui est important.
Vous avez quantifié ce que ça coûte par collaborateur sur une année de devoir avoir des masques, des gels hydroalcooliques, oui, etc., etc.
Alors oui, on l'a quantifié puisqu'on a présenté effectivement ces mesures-là à notre CSE. On travaille avec nos partenaires sociaux et c'est aussi pour et les membres de la CSCT. C'est dans cette concertation-là que nous avons réussi à travailler jusqu'alors. Oui, ça a un coût, mais ça ne vaut jamais finalement la santé et la sécurité de ses salariés.
Yann Caillère, vous venez d'écouter Irmine Longhi pour l'entreprise TEIS. Comment ça se passe au sein de votre entreprise ?
Ah ben nous, c'est pareil. Nous,
on a
prise de température, vous avez le masque, on distribue tous les jours une enveloppe sur chacun des postes qui sont en place. Avec 3 masques, on fournit 3 masques par jour.
3 masques par jour par personne.
Par personne, exactement. Et donc, on a à peu près un tiers de notre personnel qui est en télétravail pour s'assurer qu'on ait la possibilité.
Là, de ce qu'on entend avec cet exemple, c'est ça. C'est-à-dire
exactement.
Que ça a permis, ça a obligé,
absolument,
ça a concouru à développer fortement le télétravail. Vous croyez que ça va devenir la norme chez vous, le télétravail ?
Bah, écoutez, nous, on a prévu qu'à la rentrée, c'est-à-dire qu'en septembre, on va commencer à travailler avec nos représentants syndicaux pour mettre en place des normes de télétravail. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été fait, je dirais sous l'obligation. Mais là, maintenant, il faut qu'on
statue. Encadrer les normes, c'est-à-dire que 3 jours par semaine, ce serait par exemple...
Bon, je ne sais pas si c'est 3 jours par semaine, mais peut-être 2 jours, oui. Ce n'est pas impossible.
Vous êtes un grand patron. Est-ce que vous-même, vous pouvez travailler à la maison ou vous avez envie de travailler à la maison ?
Ah bah, écoutez, de toute façon, pendant la période de mars, avril, mai, j'étais chez moi.
Mais est-ce que du coup, ça vous a fait changer votre avis ? Puisqu'il y a beaucoup de patrons, disons-le, qui considéraient jusque-là le télétravail.
C'est clair que... oui, absolument. Et c'est vrai que naturellement, on n'était pas très enclin à accepter ça facilement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a vu... j'ai travaillé pendant 3 mois depuis chez moi. Hein,
mais vous continuez encore aujourd'hui un peu ?
Non. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, l'idée était de dire aussi, quand tous nos sites ont réouvert, c'était compliqué de ne pas être quelque part proche des équipes opérationnelles, parce que les sites ont réouvert, donc vous vous dites, je reste chez moi, et eux, ils sont... Donc c'était compliqué, donc il a fallu que je retourne sur les sites et qu'on redonne quand même un peu de vie. Et puis dans société, il y a quand même... le côté sociétal, il y a la rencontre, etc. Il faut un minimum quand même, on ne peut pas tous être... chez soi.
Et ben on va remercier en tout cas Irmine Longhi, directrice de TEI, un centre d'appel situé en Corrèze, d'avoir été également avec nous dans cette première émission de la saison pour La France Bouge. Et bientôt, je crois,
Elisabeth Desjardins, dis déjà au revoir.
Et ben oui, il est bientôt 13h58, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à nos invités, merci à vous Yann Caillère, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. On se retrouve demain, 13h. Tiens, on va parler de quoi Emmanuel demain ?
Eh bien, on va parler des transports et comment ils se sont adaptés cet été et surtout comment on a de plus en plus loué par exemple nos voitures entre nous. Ce sera à la une demain de La France Bouge. Passez une très très bonne après-midi.
Et là aussi, les Français se bougent et on va le voir dès demain à 13h. À demain.